dans quelques petits échanges, quelquefois pas très agréables, l'adjectif « vieille » vient s'ajouter à une remarque désagréable. Et ça, ça m'a beaucoup heurtée.
Même pas mort, c'est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Dans la saison 1, on a pu constater que la vieillesse n'était pas la retraite du cœur. Avec cette nouvelle saison, l'objectif est toujours de changer de regard sur nos aînés, en arrêtant de fermer les yeux justement sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'âgisme. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler de préjugés, de respect et du temps qui passe avec des vieux, des moins vieux et des experts. Dans cet épisode 2, on va voir comment l'âgisme s'incruste même dans le quotidien. Pourquoi on a tendance à traiter différemment les personnes qui nous paraissent très jeunes ou très vieilles? Est-ce que sans s'en rendre compte, on serait pas tous un peu âgistes? En bref, comment déceler les stigmatisations liées à l'âge dans la vie de tous les jours?
30 ans, ce n'est vraiment qu'un nombre.
Maman, je pense jamais au jour où j'aurai 30 ans. Je suis trop jeune pour être vieux.
Ne sois pas impoli.
On a tous des rapports différents avec l'avancée en âge. Il y a celles et ceux qui sont ravis de s'échapper des questionnements existentiels de la jeunesse, celles et ceux qui sont obsédés par les pattes de doigts qui se creusent au coin de leurs yeux, ou encore celles et ceux pour qui c'est même pas un sujet. Notre manière d'aborder les choses dépend d'un tas de facteurs, de notre éducation à notre état de santé, en passant par notre statut social. Ce lien intime qu'on entretient avec l'approche de la vieillesse est lui-même influencé par nos représentations, mais aussi par nos interactions avec les autres. Et parfois, c'est dans la vie de tous les jours qu'on nous rappelle à notre sort de mortel, sans qu'on l'ait vraiment demandé. Pour nous en parler, on s'est tourné vers Catherine, 66 ans, qui commence par nous détailler son rapport à la vieillesse.
La vieillesse, pour moi, c'était mes grands-mères. Maintenant que je commence à vieillir, j'ai l'impression que la perception que les autres ont de moi ne correspond pas forcément à ce que moi, j'ai dans ma tête. Je ne me sens pas physiquement âgée. Je me sens pas réduite dans mes capacités, pour l'instant, intellectuelles et physiques. Mais pour autant, le regard des autres me rappelle que je fais partie maintenant des seniors, des vrais seniors, plus même, hein, j'aurais tendance à dire. Plus je vieillis, plus l'acceptation est assez difficile quand même. C'est peut-être pas tant la vieillesse en elle-même que j'appréhende, mais c'est la dépendance éventuelle, la maladie, et puis le fait de ne plus pouvoir faire certaines choses que j'aime faire, comme voyager, faire du sport, réfléchir, puisque bon, la vieillesse peut altérer les facultés intellectuelles aussi. Voilà, je crois que j'ai peur d'être diminuée.
Évidemment, Catherine n'est pas vieille à 66 ans. Mais ça ne l'empêche pas d'être victime d'âgisme dans son quotidien. C'est d'ailleurs à travers les stigmatisations et jugements d'inconnus qu'elle a commencé à se questionner sur son âge.
Les regards ont changé très clairement à l'occasion d'une balade, en fait, dans un grand magasin. Bon, j'ai fait une réflexion à mon conjoint au sujet d'un enfant qui ne supportait pas l'ambiance et il est un fait que cet enfant, j'ai dit à mon conjoint, serait mieux dans un parc, enfin à l'extérieur. Alors, c'était pas très fin de ma part, je l'avoue. Et les parents se sont retournés vers moi en me traitant de vieille connasse. Et là, j'ai eu une prise de conscience que on me renvoyait à mon âge, à ma façon de penser, à ma position dans la société. Et puis, ça n'a pas été la seule fois. Le vieil adossé à l'insulte, ça a été aussi dans un transport un jour où j'avais demandé pour une jeune femme très enceinte. J'étais debout, hein, je précise, et j'avais demandé que quelqu'un cède la place. Et là encore, à une forme d'insulte murmurée à voix très basse, hein, on a adossé le vieil. Et ça, ça m'a beaucoup choquée, contrariée et même peinée, parce que c'est essentialiser la vieillesse. Pourquoi a-t-on besoin de me rappeler, quand on me parle, et même quand on n'est pas d'accord avec moi, que, en plus de ce que je dis et ce avec quoi on n'est pas d'accord, je suis vieille. Dans le regard des autres, en fait, l'adjectif vieux adossé à une insulte devient en lui-même une insulte. Être vieux, c'est pas bien, quoi.
Les mots peuvent dépasser la pensée, mais les gestes et les décisions ne trompent pas. L'agisme, dans la vie de tous les jours, c'est pas que des insultes. C'est aussi et surtout des comportements. Ça peut être, par exemple, de faire quelque chose à la place de ses parents parce qu'on estime qu'ils vont être trop lents ou ne pas y arriver. Ça peut aussi être le fait de souffler, au feu rouge, quand le conducteur devant soi est âgé, en se disant qu'il va mal s'y prendre. Enfin, ça peut être de refuser l'accès de certains cours de sport aux vieux, en pensant qu'ils vont se faire mal. Tous ces agissements, comme l'histoire de Catherine finalement, sont intéressants à étudier car ils n'interrogent pas sur la vieillesse en elle-même, mais bien sur les signes apparents de la vieillesse. Catherine, si on l'a insultée sans la connaître, c'est en se basant seulement sur ce que son physique laissait supposer de son âge.
J'ai des cheveux blancs depuis très longtemps, enfin oui, depuis au moins 20 ans. J'ai eu beaucoup de réflexions de la part de ma famille, de mes collègues, de ma coiffeuse, qui ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles je ne me colorais pas les cheveux, qui me disaient que ça faisait vieux. Par contre, j'ai absolument pas voulu céder au canon de l'esthétisme ou de l'agisme. Mais effectivement, il arrive que l'on me propose, même assez souvent maintenant, une place assise dans le métro ou dans l'auto, enfin dans le métro plus. C'est eu égard à mes cheveux blancs, très clairement. C'est très amusant d'ailleurs. Cet hiver où il faisait froid, j'avais un bonnet qui me cachait tout. On me proposait un peu moins souvent les places assises.
On vit dans un monde où les marques du temps doivent à tout prix être gommées, camouflées. Surtout quand on est une femme, conserver ses cheveux blancs ou afficher ses rides devient un acte de révolte. Pour comprendre pourquoi les femmes sont considérées comme moins désirables en vieillissant, je vous conseille l'épisode 1 de la première saison de Même pas mort. Sur TikTok, un filtre très réaliste fait fureur ces derniers temps. Il vieillit d'environ 40 ans ceux qui l'utilisent en ajoutant des rides et en accentuant les effets de la gravité sur leur peau. Si certains pleurent d'émotion face à ce visage fripé qui leur rappelle leurs ancêtres, beaucoup détestent cette version d'eux-mêmes et y vont franco sur les remarques.
Mais je vais péter un plomb.
Non, non, ça fait peur. Oh, punaise, ça pique. Hein.
Bon alors, ces réflexions sont à recontextualiser. On est sur un réseau social où l'apparence règne. Il est utilisé par une génération particulièrement sensible au sujet de l'image de soi. Il faut par exemple savoir que les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique aujourd'hui que les 50-60 ans. Il n'empêche, ces commentaires peuvent être carrément blessants pour les personnes qui n'ont pas besoin de filtre pour être ridées. Mais comme beaucoup de petites piques du quotidien, on n'y prête pas vraiment attention. Et c'est là une autre caractéristique de l'agisme, sa banalisation. Les insultes envers les plus âgés passent souvent inaperçues. Sans aller jusqu'au hockey boomer qui veut clairement dire « ferme là le vieux, tu comprends rien », on a tous déjà fait des réflexions ou des blagues agistes. Par exemple, si je dis « je me fais vieille moi, je passais le week-end sur mon canapé », je sous-entends que d'être fatiguée, apathique, c'est symptomatique de mon avancée en âge, alors que ce besoin de repos peut simplement être lié, eh bien, à de la fatigue. Pour aller un peu plus loin dans l'exemple, on a fait appel à l'autrice, chercheuse et psychothérapeute Juliette Pellissier.
Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez dans votre salon et vous vous dites « Merde, qu'est-ce que je suis venu chercher ?» Un phénomène comme ça, que tout le monde vit, de l'âge de 15 ans à l'âge de 115, selon l'âge auquel on le vit, on va avoir des perceptions différentes. Jusqu'à un certain âge, c'est pas inquiétant du tout. Et vous avez des gens qui vont juste, alors, soit ne même pas y faire attention, que ça leur est arrivé trois fois cette semaine, soit se dire qu'ils sont fatigués, ils vont mettre ça sur le stress, la fatigue, le je sais pas quoi, ou ils vont engueuler quelqu'un de pas avoir rangé les clés au bon endroit, ou enfin bon, il y a toujours un bouc émissaire dans le coin. Et à partir d'un certain moment, ça y est, ça va être associé au vieillissement. Et à partir d'un certain moment, encore plus tard, les mêmes choses, une chose comme ça au-delà d'un certain âge, vont faire tout de suite soupçonner un problème de pathologie, d'un syndrome démentiel qui arriverait, etc.
Dans l'exemple de Catherine, cette supposition de vieillesse est à double tranchant. Elle peut mener soit à des comportements mesquins, soit à une certaine forme de gentillesse. Sauf que même l'amabilité peut cacher une autre facette de l'agisme, l'agisme bienveillant. Le sociologue Bernard Ennuyer nous explicite tout ça.
L'agisme bienveillant, tu as de la sollicitude pour les vieux, mais finalement, ça se retourne en stigmatisation. C'est un de mes copains qui s'appelle Karadec, là, qui m'a envoyé un article il y a la semaine dernière, et il catégorise l'agisme. L'agisme décomplexé, les gens qui disent « les vieux, j'en ai rien à foutre », l'agisme d'indifférence, et l'agisme bienveillant, qui est à mon avis le pire.
Vous avez un exemple ?
J'ai une compagne qui a à peu près le même âge que moi, et à la Charité-sur-Loire, il n'y a pas très longtemps, elle va chez le boulanger. Et au moment de payer, la boulangère lui dit « Donnez-moi votre porte-monnaie, je vais prendre votre monnaie dans votre porte-monnaie. » Elle est sortie complètement offusquée, quoi. C'est redoutable, ça. Alors là, il y a plein de trucs tous les jours. Où les gens croient bien faire, laissez-nous faire ce qu'on peut encore faire. Si on ne sait pas, on vous demandera. C'est peut-être le rôle de l'école d'apprendre très tôt aux gens mais dans la rencontre avec l'autre. C'est très ténu entre effectivement être attentif aux gens et devenir infantilisant, paternalisant. C'est très ténu. Mais même au niveau des professionnels, hein. Les professionnels vont trop au-devant des gens, aussi parce qu'ils n'ont pas le temps. « Ah ouais, mais si je la laisse faire, vous comprenez, je vais y passer du temps, alors je n'ai pas le temps. Donc je fais à sa place. » Et oui, on voit comment l'agisme est aussi dans les logiques institutionnelles. Hein. À partir du moment où les gens sont mal formés, mal payés et qu'ils n'ont pas le temps de faire leur travail, on provoque un agisme institutionnel.
Le juste milieu entre empathie et condescendance est d'autant plus difficile à trouver que certaines personnes âgées n'osent pas demander de l'aide. Elles ont intégré qu'elles pouvaient déranger, ou elles pensent même parfois être un poids pour leurs proches. Vous le voyez venir, c'est encore une autre forme d'agisme, cette fois de l'agisme autodirigé. C'est comme si notre inconscient, à force d'entendre toute notre vie des choses négatives sur la vieillesse, crée une sorte de présomption d'incompétence quand nous-mêmes, on devient âgé. Bernard Ennuyer sort de son costume d'expert pour nous parler de sa propre expérience.
Je vais prendre deux exemples récents. Des fois, quand je m'habille, ou je me dis, bah tiens, est-ce que je vais m'habiller comme ça ? Est-ce que ça fait pas vieux qui veut pas vieillir ? Est-ce que ça fait pas vieux jeune ? Voilà, on se pose ces questions-là. Je pense à une réflexion de ma compagne il y a 3-4 ans qui m'a beaucoup frappé. Vers métro Goncourt, là, on trouve un bistrot qui était ouvert à 10h du soir. Un bistrot, il y avait apparemment beaucoup de jeunes. Et je dis, tiens, on va aller manger là. Et ma compagne me dit, mais tu te rends pas compte ? Ils vont pas nous accepter, on est vieux. Mais non, mais... Et j'ai dit, ah, Thérèse, mais j'ai dit, ça va pas. On est rentrés. Et effectivement, ça a été super sympa. Mais alors, comme on était les deux vieux du truc, on a eu du côté une espèce d'attention, peut-être un peu trop prégnante, mais j'ai trouvé ça super. Mais la réflexion de ma compagne, c'est pas pour nous. Et ça, je crois que, qu'on le veuille ou pas, on intrigue. Ah ben non, mais ça, c'est pas de mon âge. Ah ben non, je vais pas m'y prendre comme ça.
Juliette Pellissier nous détaille pourquoi on peut facilement tomber dans ce piège.
C'est une des vacheries de l'agisme, hein, aussi. C'est que si vous passez la totalité de votre vie de 20 à 70 ans à penser que les vieux sont tous gaga, bah, le jour où vous en êtes un de vieux, bah, vous pensez en effet que vous êtes gaga. Alors, vous ne le pensez pas comme ça, mais ça va très très vite activer très fortement, en effet, des formes d'auto-stéréotypes. La fille ou le fils va dire à sa maman ou à son papa une phrase du type « Attends, laisse-moi faire, tu ne vas pas y arriver ». Si j'ai des stéréotypes agistes et quelqu'un me sort ça à 80 balais, parce qu'il y a tout d'un coup un nouvel ordinateur qui arrive dans la maison, je suis beaucoup plus susceptible de le croire. On risque de faire des choses qui nous mettent dans ces fameuses prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire on pense que quelqu'un est incompétent, du coup on le fait à sa place, du coup en le faisant à sa place on le rend incompétent, ou on lui permet pas de devenir compétent. Et du coup à la fin, notre croyance de départ qui était un stéréotype, fini, on a fait les choses de telle manière qu'on a prouvé qu'on avait raison.
Est-ce que vous vous êtes déjà adressé à une personne âgée en parlant plus fort, plus lentement, sans même savoir si votre interlocuteur ou interlocutrice avait des difficultés de compréhension? En vous exprimant ainsi, vous illustrez l'idée reçue selon laquelle les vieux sont tous sourds et séniles. Ce sous-entendu constitue une forme d'agisme subtil certes, mais plus grave qu'il n'y paraît. Déjà parce qu'elle flirte avec l'infantilisation des vieux. Il faut savoir que ce phrasé simplifié s'appelle le baby talk, car c'est le même qu'on emploie avec les nourrissons ou les animaux de compagnie. Parler de manière simplifiée à quelqu'un peut avoir des conséquences sur l'estime de soi de la personne en face, qui peut alors culpabiliser en réalisant que l'échange est altéré à cause d'elle. Cette communication de bas niveau peut même amener à une régression des capacités cognitives, comme l'explique Juliette Pellissier.
Le langage, de toute façon, on ne le maintient dans un certain état que parce qu'on l'emploie. Il n'y a pas de mystère. Hein. Un enfant, en effet, qui ne s'entend, si on ne parlait pas aux enfants, ils n'apprendraient pas à parler. Et c'est pareil durant toute la vie. Quand vous avez des gens qui se retrouvent en situation d'isolement ou d'être désocialisés, etc., ils perdent y compris du vocabulaire, évidemment, puisqu'il n'y a pas en permanence ce nourrissage par l'usage. Alors déjà, une tendance aussi, c'est que dans les stéréotypes, c'est que de toute façon, la personne comprend moins. Comme elle comprend moins, on va en effet simplifier. Et plus on simplifie, si vous avez une personne à qui tout le monde, pendant des mois et des mois, en effet, parle avec un vocabulaire simplifié, bah, peu à peu, elle va en effet de moins en moins utiliser un autre vocabulaire et de plus en plus appauvrir son vocabulaire, sa manière de parler, etc. Souvent, des choses dans des familles, par exemple, mais là aussi, sans que ça soit de la malveillance, mais ça peut aller très vite. Là où l'âge peut jouer quelque chose, c'est par exemple sur la capacité à suivre plusieurs conversations en même temps. Donc, si vous avez une tablée où vraiment personne ne fait attention à ça, ça peut très facilement placer la personne de 80 ou 90 ans en situation un peu de retrait par rapport aux conversations. Et c'est des cercles vicieux, c'est-à-dire cette situation de retrait va aller activer les stéréotypes de la plupart des convives du type « bon, bah, mamie, elle est dans sa bulle, elle est dans son monde, voire dans sa maladie d'Alzheimer. » Du coup, on va moins aller lui parler. Comme on va moins aller lui parler, on va encore plus activer chez elle le fait qu'elle n'est pas, bah, qu'elle n'est pas en sécurité, elle va de plus en plus intérieurement aussi s'isoler. Plus elle va s'isoler, bah, moins son vocabulaire en effet va être entretenu, donc moins ça sera facile de parler quand elle parlera. Enfin, voilà. Vous avez comme ça énormément de situations qui sont des cercles vicieux en fait, où très vite on peut arriver à des choses assez graves, du coup en termes d'isolement social, y compris entouré de gens.
Revenons à Catherine. Si elle n'est pas concernée par le baby talk, et heureusement d'ailleurs, elle est tout de même impactée par l'agisme auquel elle est confrontée.
C'est surtout que ça me renvoie à une finitude. Ça me renvoie à l'idée qu'il ne me reste pas forcément beaucoup de temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire encore. Pour vous donner un exemple très, très concret, j'ai toujours beaucoup voyagé. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'aimerais bien encore, dans les années qui me restent de mobilité facile, avoir encore des expériences, mais plus de bénévolat à l'étranger. Et dans beaucoup de recherches que je fais, je suis bloquée par l'âge. C'est-à-dire que là, dans ce domaine-là, on considère qu'au-delà d'un certain âge, non, vous n'avez plus autant à apporter qu'un jeune. Et ça, vous voyez, ça me blesse. J'estime que mon passé professionnel et ma volonté pourraient m'amener encore à avoir quelques missions. Et il y a un coup près. Non. Au-delà d'un certain âge, en gros, vous ne nous intéressez plus. Il y a des missions qui s'arrêtent à 50 ans. Au-delà de 50 ans, on va vous proposer des missions avec les animaux. OK, j'aime bien les animaux, mais je peux aussi faire autre chose que la protection des kangourous à Pétaouchnok.
Est-ce que vous pourriez vous empêcher de faire des choses à cause de l'agisme ?
Vu ce que nous renvoie la société, ah oui, je pense que y a des choses que je pourrais ne plus faire. Alors, je suis un entre-deux là. Je suis encore à 80% en activité professionnelle. Je prends ma retraite à la fin de l'année. J'ai encore des missions, donc je suis encore active. Mais je vous dis, je recherche pour ne pas tomber dans une retraite inactive. Et là, je me rends compte que on me renvoie l'âge. Et du coup, oui, peut-être que je m'interdirai. Il y aura une auto-censure, même si je... Alors là, je suis vraiment insatisfaite de cet état de fait, mais quand il n'y a rien au bout, on ne fait plus, quoi.
Le manque d'accès à certaines activités participe à exclure les plus âgés de la société. En gros, à force d'entendre des remarques agistes, on finit par s'isoler, ne plus sortir, ne plus avoir d'interaction avec les autres et par se couper de tout lien social. Cette mise à l'écart entraîne des répercussions psychologiques et physiologiques. Une personne qui s'isole peut perdre en autonomie et ne plus avoir accès à certains soins. Il est alors plus facile que son état général se dégrade. Rappelons qu'en 2021, 2,5 millions de personnes de plus de 60 ans se sentaient seules tous les jours en France, d'après le baromètre Solitude et isolement des petits frères des pauvres. Cet isolement est préjudiciable non seulement pour celles et ceux qui le subissent, mais également pour les autres. En excluant un quart de notre population avec des comportements et remarques agistes, on se coupe de tout ce que ces personnes peuvent nous apporter. des savoirs, des échanges, des expériences, un héritage précieux. Ce cocktail de condescendance mène à l'invisibilité des souffrances vécues par les aînés. Il est alors plus difficile de gérer la prise en charge des maltraitances qu'ils peuvent subir. Toutes ne sont d'ailleurs évidemment pas révélées par les scandales en EHPAD, et certaines, voire même beaucoup, arrivent à domicile. Au-delà des atteintes physiques, il est important de noter que le non-respect de la vie privée, le chantage, les négligences, même passives, ou encore l'héritage forcé, sont des maltraitances. Selon l'OMS, une personne âgée sur 6 a subi des maltraitances au sein de son environnement en 2022. Les personnes âgées ne sont pas les seules à ressentir le poids des stéréotypes dans leur quotidien. Les jeunes peuvent aussi se coltiner des comportements déplacés ou des réflexions malvenues à cause d'une image négative ou cliché. Pour Marie Caillot, présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les stigmatisations fragilisent et excluent également les jeunes qui paient les conséquences de cet agisme au jour le jour.
J'animais un débat pour dans le cadre de présidentielle, je crois que c'était en 2017. Et justement, j'interrogeais les représentants de partis sur la question de la précarité des jeunes. Et il y en a quand même un qui était là pour me répondre « Oui, mais quand on est jeune, c'est la vie de bohème. » Bah en fait, non. Il n'y a pas de vie de bohème, il y a une vie de précarité. Et en fait, ils la subissent, ils ne la choisissent pas. On comprend assez aisément que parce qu'on est dans une situation de précarité, parce qu'on est jeune et que c'est la vie de bohème, c'est génial, ben forcément ça a un impact sur la manière dont on vit, les choix qu'on va faire, sur le logement qu'on occupe, sur la qualité de son alimentation, enfin un tas de conséquences qui sont parfois assez dramatiques, hein, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui font le choix de plus manger. Et sur la question de la santé mentale, effectivement, pour le coup, là, je pense que c'est quand même plus issu de la pression qu'on peut mettre aux jeunes. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est des jeunes à qui, on vient répéter « il faut réussir », on leur donne un tas d'injonctions à la réussite, aux bonnes notes, à l'évaluation, et en même temps, il faut avoir une super vie sociale. L'injonction à avoir plein de copains, à se sortir, en fait, il y a des gens à qui ça ne convient pas et pour le coup, c'est une frustration énorme. Et quand bien même, on a 20 ans, on ne vit pas sa meilleure vie. Quoi. La chose pour laquelle on peut lutter dans le quotidien, j'entends, c'est le phénomène d'autocensure. Enfin, pour le coup, les jeunes se disent parfois quand même « bah non, je ne peux pas faire parce que je ne vais pas être pris au sérieux parce que je suis jeune. » Et de la même manière que des personnes... plus âgés ou adultes vont pas laisser la place à des jeunes pour prendre la parole ou pour prendre des initiatives, bah réussir à se laisser des espaces comme ça entre générations, c'est quand même super important pour permettre à des jeunes d'exprimer leur potentiel ou ce qu'ils ont envie de faire. Je pense qu'au travail, en réunion, simplement aller dire bah tiens, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et valoriser et reconnaître cette parole-là, ça permettrait de lutter contre cette autocensure qui est, je pense, assez forte chez les jeunes, dès lors qu'ils sont plus entre jeunes. Pour le coup, si on parle petits tips pour repas de famille, déjà, arrêtez de mettre les jeunes au bout de la table. Excellente idée pour permettre de les intégrer pleinement. Et petit message personnel. Alors ça, c'est pour le coup, si mes grands-parents écoutent ce podcast, j'espère qu'ils l'entendront, parce que ne plus moquer les choix d'engagement des jeunes, hyper important. Je pense notamment à toutes les blagues qu'il peut y avoir sur le végétarisme ou le véganisme dans les familles, qui est assez dramatique, parce que pour le coup, ça nécessite à chaque fois de devoir expliquer, et en fait c'est même pas expliquer, c'est se justifier. Ça c'est un truc assez incroyable.
Puisqu'on est en famille, restons-y. On vient de le voir, les a priori hérités de nos représentations ne mènent à rien de bon. Mais bonne nouvelle, pour le sociologue Bernard Ennuyer, ces idées reçues peuvent être dissoutes par l'éducation, en famille ou à l'école, ou encore par la force de l'entraide.
Je voudrais quand même pas oublier de dire que la France, elle est très très bonne dans la solidarité entre les générations. Car ce qu'on sait aujourd'hui, si beaucoup de gens peuvent rester chez eux jusqu'au bout sans entrer en EHPAD alors qu'ils ont des difficultés importantes, c'est parce que c'est les familles qui font le boulot, et notamment les femmes. Tous les chiffres sont là. Ce ne sont pas les aides publiques qui les aident, c'est les femmes. Les conjointes, les filles, les belles-filles et les petites-filles. Et de ce côté-là, la France est très bonne. Si la France était capable de mettre en place, et pourquoi pas, une politique publique plus généreuse, je pense que la France est un pays qui n'a pas à rougir de la façon dont elle traite les gens qui vieillissent. Hein. Absolument pas. Moi, je crois que les retraités que nous sommes, la balle est aussi dans notre camp. On dit que les gens ne viennent pas vers nous, mais à nous aussi peut-être d'aller vers les... je sais pas, moi je vois avec mes petits-enfants, il y a des fois des trucs que je comprends pas du tout, ben, j'essaie de leur dire, ben, explique-moi ce qui se passe, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu fais, quand je vois Thomas qui joue à des trucs, à des jeux, machin, c'est peut-être à nous à faire souvent les premiers pas. Il y a des gens, là je vois, je travaille beaucoup avec des personnes vieillissantes qui ont créé des habitats partagés. C'est venu souvent de vieilles dames. Plutôt que de me lamenter que je reste tout seul, puisque je ne veux pas rester toute seule, je vais aller voir d'autres et on va construire un habitat partagé. Il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent en France très bien, uniquement à l'initiative de gens qui ont choisi de ne pas rester enfermés dans les stéréotypes et qui ont été à la rencontre des autres. Alors des fois ça ne marche pas et des fois ça marche très bien.
L'intergénérationnel peut être une clé magique pour sortir de l'agisme et envoyer valser les clichés qui collent à notre imagination. Dans le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres, dédié à l'intergénérationnel donc, plusieurs pistes sont plébiscitées par les jeunes comme les vieux pour mieux se rencontrer. Il y a le bénévolat, le service civique, les colocations entre générations ou encore les activités en commun. Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, nous donne des pistes à explorer.
Vous avez beaucoup de personnes pour lesquelles l'abandon de la maison se symbolise aussi parce qu'à un moment, vous n'êtes plus capable de l'entretenir. Par exemple, vous avez un petit jardin, vous n'êtes plus capable de faire votre jardin. Puis c'est là que la famille va vous convaincre de quitter une maison dans laquelle vous êtes peut-être resté trop longtemps. Ou vous avez des gens qui restent dans leur maison, mais le jardin devient une friche parce que de toute façon, ils n'en ont plus la possibilité. Et vous pouvez avoir en face de vous, dans la rue, des gens qui vivent en appartement, et qui, eux, aimeraient bien avoir un jardin. Quand vous êtes un élu local, quand vous êtes une association dans une ville, vous le voyez, ça, c'est sous vos yeux tous les jours, quoi. Créer l'intermédiation, c'est-à-dire le fait que Monsieur Dupont dans l'appartement puisse prendre contact avec Madame Durand dans la maison et qu'il puisse avoir accès au jardin de manière gratuite. Hein. Moi, je ne suis pas en train de créer une nouvelle start-up. Hein. Ça va créer de l'intergénérationnel, ça va certainement lutter contre l'isolement, tant de Madame, peut-être que de la famille qui vient d'arriver dans la commune et qui n'est pas intégrée. Et puis, ça va participer de la bonne alimentation in fine. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions comme ça qui existent, qui commencent à se mettre en place. Vous avez des élus locaux aujourd'hui qui, et ils ont raison de le faire, se disent que l'un des bons moyens pour lutter contre l'isolement social, c'est d'ouvrir le restaurant scolaire aux personnes isolées. Mais pas avant les enfants ou après les enfants, pendant. Alors il faut que ça ait du sens tout ça, et ça peut se faire qu'au local. Mais moi je crois beaucoup à ces solutions-là.
L'envie de dépasser la barrière de l'âge est bien présente. Un jeune sur deux exprime même le souhait de côtoyer plus de personnes âgées au quotidien. Le succès des rencontres intergénérationnelles organisées par l'association prouve bien que créer du lien entre générations permet de dépoussiérer les clichés tout en cultivant nos individualités et nos points communs. Pour rafraîchir l'image erronée que l'on se fait des vieux, des jeunes, de tout ce qu'on ne connaît pas en fait, il faudrait passer par une prise de conscience en nous interrogeant. D'où nous vient cette vision bancale ? Quelles caractéristiques on attribue d'emblée à telle ou telle génération et pourquoi ? Juliette Pellissier nous donne d'autres questions à nous poser avec un petit exercice facile à mettre en pratique.
Un truc qui peut aider, je pense, c'est de ne plus penser qu'on a un âge, mais d'assumer et de réfléchir avec les autres gens qui nous entourent, de notre famille ou autre, sur tous les âges possibles. C'est-à-dire que potentiellement, notre âge qui est écrit sur notre carte d'identité, c'est pas la même chose que notre âge biologique. Il peut y avoir 30 ans d'espérance de vie de différence entre deux personnes selon la vie qu'elles ont eue. C'est pas la même chose que notre âge familial. Deux personnes qui ont le même âge, mais l'une est grand-mère, l'autre l'est pas, peuvent se vivre et être vécues par leur famille de façon très différente. On a un âge relationnel aussi. Si vous passez une soirée avec une personne qui a 30 ans de plus que vous ou une soirée avec une personne qui a 30 ans de moins de vous, votre âge relationnel n'est pas forcément le même. Et du coup, ça peut être très intéressant aussi parce que même selon les moments de la vie, on n'a pas forcément le même âge. Il y a des moments où on peut vivre une situation comme on la vivait 30 ans avant, alors que le lendemain, on peut vivre une situation d'une manière avec un gros décalage par rapport à ça. Je pense que c'est un support chouette à la fois psychiquement et de discussion, d'essayer un peu de sortir de l'idée qu'il y a un âge et d'essayer de penser plutôt sur quels âges on a.
Dans cet épisode, on a compris comment ces satanées idées reçues ou constructions sociales nous poussent à tenir des propos ou à avoir des comportements agistes au quotidien. On a aussi mesuré l'ampleur des conséquences de nos a priori sur nos interactions avec les autres. la banalisation de ces actions et paroles qui blessent tant pousse celles et ceux qui les subissent à prendre moins de place, à s'auto-censurer, parfois jusqu'à l'isolement. Déconstruire l'agisme requiert surtout de l'attention à l'autre. Questionnons nos aînés et nos cadets plutôt que de supposer. Arrêtons de nous mettre à la place des autres pour leur en faire de la place. Et à ce propos, Catherine a une dernière chose à nous dire.
Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Pour ma génération, à la limite qu'on s'intéresse un peu moins à nous sur le plan économique, ce ne serait pas plus mal, et qu'on nous laisse entrer dans la vieillesse sans en faire toute une histoire, quoi. On est encore actif, on peut encore aider. On est très présent, je pense, auprès de nos petits-enfants. On est vieux, mais on a encore le droit de faire ce qu'on veut.
Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode. Orfeloro en a fait le mixage et Audiotactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite !